Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
À Theodore Roosevelt. Toi, tu es pareil au vent. Et moi, je suis comme le lion.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray et DVD. Nous nous pencherons sur L'Attentat d'Yves Boisset qui est sorti chez Tamasa, Cromwell de Ken Hughes, Le Lion et le Vent de John Milius, La Maison aux Sept Pignons de Joe May et Spéciale Première de Billy Wilder qui sont sortis chez Rimini et Le Journal de Ron Howard qui est sorti chez Elephant Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jean-Pierre Vasseur et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer sorties DVD, Blu-ray, enfin bref, sorties vidéo, je suis accompagné de celui que l'on surnomme le loup-garou picard. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut GG et bien évidemment bonjour à toutes.
Thomas, tu es venu dans ta besace avec un film d'Yves Boisset. Yves Boisset, cinéaste qu'on aime bien dans notre équipe. Un film qui s'appelle L'Attentat, un film de 1972, inspiré par la fameuse affaire Ben Barka.
Oui, Yves Boisset qui est toujours, hein, mais qui n'est plus en activité malheureusement, qui était un cinéaste plutôt engagé, qui savait à l'époque ruer dans les brancards. Et là, il s'attaque à la fin de Ben Barka, qui est toujours un peu une affaire un peu tabou, hein, vu qu'on ne sait pas trop le fin mot de l'histoire encore aujourd'hui, où les services secrets marocains et français seraient mêlés à cet enlèvement, à l'assassinat de ce fameux Mehdi Ben Barka, qui, on le rappelle un peu, il avait rendez-vous dans une brasserie à parisienne en 65 et donc il a été enlevé, on ne l'a plus jamais revu. C'était un homme politique plutôt de gauche qui était un peu dans le collimateur du roi à l'époque au Maroc et donc dans le collimateur aussi des différents services internationaux et services secrets internationaux.
Et qui avait rendez-vous ce jour-là, Thomas, au café pour qu'on prépare un film sur lui. Enfin, je crois que c'était ça un peu le deal, parce que c'était un opposant effectivement marocain, et qui avait rendez-vous entre autres, pour l'anecdote, avec Marguerite Duras, je crois, qui devait s'occuper de l'écriture du film.
En parlant d'écriture, justement, le film bénéficie du concours de trois scénaristes différents, et parmi ces trois scénaristes différents, il y en a deux qui ont une histoire bien particulière. Il y a Georges Semprin, qui était un écrivain et scénariste d'origine espagnole, qui a été engagé dans la Seconde Guerre mondiale et qui a été notamment enlevé et envoyé à Buchenwald par les nazis jusqu'en 1945. Plus tard, de 1947 à 1964, il s'est engagé contre Franco auprès des communistes en Espagne pour ensuite être exclu du Parti communiste parce qu'il n'était pas vraiment pro-Staline. Et il y a aussi un autre scénariste qui est Ben Barzman. Alors lui, Ben Barzman, c'était un scénariste qui était blacklisté à Hollywood. Donc il y en a un troisième qui est Basilio Francina, mais qui n'est pas, qui n'a pas d'histoire particulière. Et je trouve que l'histoire de ces deux scénaristes apporte quelque chose de particulier au film, qui est, on peut dire, une œuvre assez, quand même assez engagée. Je veux dire, c'est un film qui accuse quand même pas mal, notamment les services secrets, les journalistes, tout le monde, Yves Boisset met tout le monde dans le complot. C'est un film qui bénéficie aussi d'une grande distribution. Alors, il y a Jean-Louis Trintignant dans le rôle principal, il y a Jeanne Maria Volonté, qui est quand même qui était un très grand acteur. Il y a Philippe Noiret, il y a Roy Scheider aussi, dans le rôle d'un journaliste états-unien. Donc, c'est un film où il y a une pléthore de stars pour dénoncer, parce qu'il dénonce, hein, on peut dire que le film dénonce. C'est un film qui dénonce ce complot qui a mené à l'élimination de Ben Barka dans la réalité. Et là, Yves Boisset met tout ensemble les journalistes, les services secrets marocains, les services secrets français, la police, mais aussi mêlé au grand banditisme qui était aussi, qui faisait partie aussi du complot. Alors, le film, dans une première partie, décrit très bien la mise en place du piège, parce qu'il s'agit d'un piège, et c'est Jean-Louis Trintignant qui va se faire l'idiot utile de ce piège, parce qu'il connaît Sadiel, qui est interprété par Jeanne Maria Volonté, qui est un peu l'équivalent de Ben Barka à l'écran, et parce qu'il est ami avec Sadiel, mais seulement il a quelques casseroles, et puis la police va le faire chanter pour l'inciter à inviter son ami Sadiel dans une brasserie pour une émission de télévision. Donc toute la première partie du film décrit bien ça. Et après, dans une deuxième partie, le film, on est plus dans le thriller où le personnage de Jean-Louis Trintignant se retrouve seul contre tous et va essayer d'échapper à tous ses poursuivants pour faire éclater la vérité et éventuellement récupérer son ami qu'il pense encore emprisonné alors que visiblement, il est plutôt mort.
Tu le rappelais toi-même, Thomas, oui, c'est un film qui est un film vraiment qui dénonce sans embâge. Hein. Bon, c'était un peu la spécialité, entre guillemets, d'Yves Boisset, hein, puisqu'on peut, le constater dans des films comme Le Juge Fayard et le Shérif, par exemple, RAS, enfin bon, voilà, où c'était un cinéaste très engagé, avec un petit côté à la fois très, très italien dans sa mise en scène et parfois son sens du rythme et son sadisme, mais aussi très américain. Enfin voilà, il avait... Boisset, c'est un cinéaste un peu à part. Et il a quand même... bon, le film ne s'est pas fait aussi facilement que ça. Hein, il a subi beaucoup de pression pendant le tournage. Le financement du film a été bloqué à 3 reprises, donc c'était vraiment un film qui dérangeait. Et les scènes de torture ont dû être retournées parce que les bobines ont disparu. Et enfin, il y a eu, lors de la sortie en salle, quelques attentats pour empêcher la sortie du film. Alors, effectivement, on peut dire que le film dénonce est dérangé à l'époque, parce que c'était immédiatement en prise sur l'histoire. C'était 7 ans après les événements, donc c'était assez rapide quand même, malgré tout. Et puis, Boisset, on sait que d'ailleurs que le côté dénonciateur de son cinéma, selon Yves Boisset lui-même, qui l'a déclaré en interview, hein, lui aurait coûté en gros le fait de pouvoir travailler pour le grand écran, puisque Mitterrand n'aurait pas apprécié un de ses films, et ce qui l'a condamné à travailler pour le petit écran, parce que Mitterrand vivant, il était hors de question que les films d'Yves Boisset reçoivent le moindre financement. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, enfin que Boisset dit dans un documentaire sur lui que j'ai vu et qui est très intéressant. Ça éclaire aussi un peu le poids du secret d'État en France, hein, que ce soit la droite ou la gauche entre guillemets au pouvoir, voilà. Et c'est pas un film qui s'est fait facilement pour Boisset, ça c'est sûr. Tout a été compliqué sur ce film, comme sur d'autres films d'ailleurs de Boisset.
Thank you.
C'est aussi un film qui s'inscrit dans une mouvance hein, aux États-Unis. Après l'assassinat de Kennedy, il y a eu toute une série de films complotistes hein, avec des thèses plus ou moins farfelues sur l'assassinat de Kennedy. Et pour moi, le film il s'inscrit aussi là-dedans. Il a ce côté très états-unien du complot, de dénoncer des complots. Et comme tu le dis, il y a un petit côté italien. Forcément, le film est aussi une coproduction avec l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest. Donc il y a chez Boissé, qui je trouve n'est pas un grand formaliste, mais hein. Par contre il a une façon de filmer, on sent comme une urgence dans sa façon de filmer. Il y a un montage très sec, un découpage très sec, un côté très naturaliste. Et je pense notamment à cette poursuite où Jean-Louis Trintignant se fait poursuivre dans les bidonvilles de Nanterre par deux mecs qui veulent évidemment l'oussir. Il y a quelque chose de très naturaliste dans son cinéma qui, à mon avis, renforce ce côté d'urgence qu'on peut trouver notamment dans ce film.
Il y a aussi quelque chose que je trouve d'assez passionnant dans ce film parce que, bon, Boissé, son grand œuvre, c'est Dupont-la-Joie, hein, qui est vraiment son plus grand film. D'ailleurs, je crois que c'est Georges Semprin aussi au scénario. Hein. Le scénario est riche d'un personnage principal particulièrement complexe, en fait. Donc, qui est interprété par Trintignant, hein, qui s'appelle Darien dans le film, hein, et qui est un personnage... en fait, assez proche de ce que peut être un être humain dans la vraie vie. C'est-à-dire que... c'est un idéaliste, mais pas trop. Dès qu'il est mis en danger personnellement, il perd ses moyens. Mais il veut quand même rattraper son erreur. Mais en voulant rattraper son erreur, il fait pire et il se met dans de plus grandes difficultés. C'est un personnage fort complexe. En fin de compte, c'est un héros vraiment, vraiment atypique. C'est très rare de voir des héros comme ça dans le cinéma.
C'est un rôle qui colle bien aussi à la personnalité de Jean-Louis Trintignant, qui a joué beaucoup de rôles ambigus, équivoques. Et là, évidemment, le personnage, comme tu dis, il est engagé, mais il est un peu lâche aussi, parce que quand il se retrouve devant la machine policière, il n'a pas vraiment le choix, sinon il se retrouve en tôle ou pire que ça. Et, c'est un personnage qui est aussi tiraillé. Donc par l'amitié qu'il a avec cet autre personnage, cet homme politique marocain, Sadiel. Et je trouve que justement là est tout aussi l'ambiguïté du film et qui accentue ce côté véridique, ce côté réaliste.
On a d'autres films à aborder, hein, mais je voulais quand même dire aussi que la partition de Morricone est assez intéressante, est assez extraordinaire. Bon, c'est Morricone, hein. Le maestro nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais enfin, bon, c'est une de ses grandes bandes originales. Et puis je voulais terminer par évoquer un plan, parce que ce n'est pas un grand formaliste, mais il y a quand même un plan qui est très... Enfin, il y a plusieurs plans réussis, mais il y a un plan que j'aime beaucoup dans le film. C'est quand on voit la salle des écoutes téléphoniques et qu'il y a un travelling arrière, comme ça, qui s'opère. Et là, on comprend, en fait, c'est dans la grande tradition de ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, sur le complot est partout, voilà, les films parano, hein, les thrillers parano, c'est une grande tradition de l'époque. Et on ne va pas rappeler tout, les Trois Jours du Condor, par exemple, aux États-Unis, des choses comme ça, les Hommes du Président, voilà. Et là, il y a ce travelling arrière qui nous dit, vous êtes tous potentiellement sur écoute. Voilà, vous êtes tous en danger, vous êtes tous potentiellement sur écoute. Faites attention quand vous avez le téléphone, que vous parlez dans le combiné, vous avez le téléphone dans la main. Tout ce que vous dites pourra éventuellement être entendu par l'État français.
Et c'est aussi un grand moment de mise en scène parce que ce travelling arrière, en fait, on précède un personnage qui va apporter un message. Et c'est le personnage qui va apporter le message qui va signer l'arrêt de mort de Darien, en fait. Et donc, il y a aussi ce côté... on comprend par ce mouvement de caméra que là, son personnage, son destin est scellé et que c'est la condamnation finale.
Gentlemen, the king comes. He comes with 100 men at arms.
He claimed the divine right of kings, answerable only to God.
And by God, when he dies, he shall have much to answer.
The king is not England. And England is not the king.
To defy this king needed the courage of a Cromwell.
I hear nothing but Cromwell, Cromwell.
Has this king forgotten the Reformation? Has this king forgotten the Spanish Inquisition? Is the Roman Catholic Church to have a seat in Westminster?
Richard Harris as Cromwell.
Alec Guinness as King Charles I.
Rather than abandon my kingdom to Parliament, I would come to terms with the devil himself.
The might of a king.
Captain.
Take him. Any action against any member of this house is a breach of privilege. I further move that any such action against this house be considered a crime against the people and treason against this nation.
Après Yves Boisset, moi j'ai complètement changé d'univers, Thomas. Je vais parler d'un film de Ken Hughes, un film qui s'appelle Cromwell. C'est un film historique britannique donc, de Ken Hughes qui est sorti en 1970, dans lequel il raconte l'histoire du fameux, en tout cas pour les Anglais, c'est un personnage vraiment très très connu, hein, Oliver Cromwell, qui est interprété là par Richard Harris, qui est bien exalté d'ailleurs dans le rôle, qui est un propriétaire terrien, un noble, hein, enfin petite noblesse, mais un noble, ancien membre du Parlement, qui a été dissous donc, par le roi Charles Ier, qui est interprété avec toute sa classe par Sir Alec Guinness. Voilà. Et c'est surtout un sacré puritain, voilà, qui s'apprête à partir pour les États-Unis, évidemment. Et comment dire, il n'en peut plus de la politique qui est menée en Angleterre, il n'en peut plus de l'état de l'Angleterre. Et des amis à lui viennent le voir, en fait, pour lui dire « mais il faut rester, il faut participer à une guerre contre le roi pour le renverser ». Alors Cromwell, lui, ça le met plutôt en rage. Mais quand Charles Ier décide de rappeler le Parlement, eh bien Cromwell décide quand même de rester. Au départ, il est assez modéré, en fait, avec le roi. Et puis, sa position va devenir de plus en plus extrême. Par rapport au refus de Charles Ier de partager son pouvoir avec le Parlement, on s'engage petit à petit dans une guerre civile et dans un film, en fait, qui va être assez épique, assez impressionnant quand même. Et moi, j'ai voulu voir ce film parce qu'il est signé Ken Hughes, en fait. Et que Ken Hughes, eh bien, c'est quelqu'un que je connaissais surtout pour un film qui est un slasher, hein, voilà, hein, qui est un de ses derniers films, si ce n'est peut-être son dernier film d'ailleurs. C'est Les yeux de la terreur avec la belle Rachel Ward, voilà, que les cinéphiles qui ont vu le film s'en rappellent. Un film qui est en plus sous influence un peu du giallo, voilà. Donc j'avais envie de voir ce que Ken Hughes a fait, en fait, au début de sa carrière. Et j'ai découvert que Ken Hughes, en fait, c'était un grand spécialiste de la tragédie shakespearienne. D'ailleurs, le film, là, à côté, a des accents shakespeariens. Hein. Qu'il avait travaillé, par exemple, sur une version de Macbeth en polar, qui s'appelle Joe Macbeth, qui date de 1955, qui, paraît-il, est vraiment, vraiment excellente. Et puis, il a, par exemple, signé le scénario de Casino Royale en 1967. Il a fait la suite d'Alfie le Dragueur. Film que je sais que, Thomas, toi, Alfie le Dragueur, ça te parle.
Forcément, c'est un film avec Michael Caine, Lewis Gilbert, qui est un cinéaste encore mésestimé, je trouve. Et donc, l'un des premiers grands rôles de Michael Caine au cinéma.
Et donc, c'est Ken Hughes, hein, qui avait signé la fuite. C'était une suite assez tardive, puisqu'elle datait de 1975, et le premier film est de 1966. Et elle s'appelait Alfie Darling. Alors, Cromwell, c'est vrai, c'est un film complètement méconnu. Moi, je ne l'avais pas vu. Alors, les spécialistes de l'histoire britannique considèrent qu'en fait, le film prend quelques libertés, puisque lors de la conquête de l'Irlande, Cromwell a été visiblement un tyran génocidaire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très vite éludé dans le film. Hein, voilà. Bon, après, parfois, comme le disait John Ford, hein, quand la légende est plus belle que l'histoire, il faut imprimer la légende. Voilà. Et donc, on en est un peu là. Alors, évidemment, en fait, Cromwell, c'est surtout un puritain qui est intéressé et qui veut conserver les intérêts liés à sa classe. Et il est prêt à entrer en guerre pour ça. Et donc, ça donne un film, alors, un peu agiographique quand même. C'est un peu le défaut du film. Mais par contre, moi, j'aime beaucoup la mise en scène du film. Il y a beaucoup de plans larges. La mise en scène est très, très contemplative. Il y a des longues scènes de bataille. Et c'est un film qui a un côté épique, qui me plaît beaucoup. Voilà, un côté épique et un côté aussi tragique. Il manque, en fait, au film, peut-être une plus de complexité. On le comprend dans les bonus du DVD parce que il y a l'historien angliciste Bernard Cottret qui revient sur le personnage de Cromwell et on comprend que c'est un personnage quand même un peu plus complexe que ce que nous montre le film. Mais bon, après, qui peut refuser à une bataille rangée entre Richard Harris et Alec Guinness? Franchement, c'est juste pas possible. Voilà. On va vous parler maintenant d'un autre film porté par le souffle de l'aventure, hein, le souffle de l'épique. Hein, on peut dire ça quand même, hein, au sujet de ce film. C'est Le Lion et le Vent du sous-estimé John Milius, hein, qui n'a pas toujours été sous-estimé, mais aujourd'hui, c'est plus trop de bon ton de dire qu'on aime John Milius. Un film sorti en 1975, interprété par le regretté Sean Connery, et qui s'inspire en partie de l'enlèvement d'un Américain d'origine grecque, Ion Perdicaris, au Maroc, en 1904. Ce film, Thomas, donc Le Lion et le Vent, je pense que c'est un film que tu aimes beaucoup, car je sais que toi aussi, tu aimes les armes, les cigares, et que tu as un grizzly empaillé dans ton bureau.
Pour les armes et le grizzly empaillé, ça porte quand même à caution. Hein. Bon, les cigares, ok, mais bon. Tu parlais justement du côté épique, mais Le Lion et le Vent n'est pas qu'épique, c'est aussi un grand film romantique. Donc, c'est, comme tu le disais, ça s'inspire d'un enlèvement, d'une histoire vraie. Et là, cette fois, c'est Sean Connery qui joue un cheikh arabe à la tête d'une toute petite armée qui décide d'enlever la veuve d'un diplomate anglais qui est joué par Candice Bergen. Donc, il l'enlève, elle et ses enfants, après avoir massacrer les serviteurs, l'homme qui était là pour déjeuner, qui est dépeint de façon assez ridicule quand même. Et donc, à partir de là, va se nouer une intrigue, un bras de fer entre ce fameux cheikh arabe et Theodore Roosevelt. Et les deux hommes ne vont jamais se rencontrer, mais ils vont quelque part s'estimer l'un l'autre dans ce bras de fer un peu virtuel qu'ils vont mener pendant les deux heures que dure le film. À la vision du film, bon, John Milius, il pâtit un peu d'une réputation qui est quand même un petit peu usurpée. On dit que c'est un fasciste, etc. Mais finalement, quand on regarde Le Lion et le Vent, et même quand on regarde ses autres films comme Conan, etc., le fait qu'il soit un fasciste n'est pas si évident que ça. Parce qu'effectivement, il y a une fascination pour les personnages charismatiques, puissants, les scènes de bataille, qui sait très bien mettre en scène. Mais quand on voit, il y a une certaine séquence dans le film où il met en scène l'armée américaine qui va prendre d'assaut le palais du sultan marocain. Et en fait, cette armée, il la ridiculise quand même pas mal, quoi. Donc ce film, Le Lion et le Vent, va quand même à l'encontre de clichés ou des représentations qu'on peut avoir de John Milius. Et pour moi, c'est un très grand film d'aventure avec ce personnage incarné par Sean Connery qui a des valeurs morales particulières, qui respecte ses ennemis, qui va complètement à l'encontre de là où on peut l'attendre, notamment ce personnage incarné par Candice Bergen qui le voit comme un sauvage. À un moment, il y a une scène très intéressante où il y a quatre hommes qui considèrent qu'ils l'ont insulté. Il coupe la tête de deux d'entre eux. Et elle est choquée, puis elle pense que c'est juste un barbare, quoi, voilà. Mais finalement, il sait se montrer tout ce qu'il y a de plus élégant, poli, cultivé auprès de cette femme. À partir de là, va se nouer une relation un peu étrange entre les deux, une sorte d'amour platonique ou de respect mutuel qui donne tout ce souffle romantique au film.
il faut dire aussi que... Bon, alors c'est vrai que Milius a beaucoup souffert d'une image qui s'est aussi en partie construite. Hein, c'est-à-dire qu'il l'a assumé, il a fait beaucoup de provocations. Il y a un très bon livre hein, qui est avec le coffret, parce que le coffret est magnifique. Hein, c'est un superbe objet avec un livre extraordinaire de Christophe Chavdia qui est très, très, très documenté. On découvre plein de choses sur Milius, sur sa vie. Il a été chercher plein de choses, plein de propos, plein d'interviews. On découvre aussi que plusieurs personnes l'ont mis en garde pour lui dire « John, fais attention, t'as beaucoup de talent ». Ne t'enferme pas dans une caricature de toi-même. Voilà, parce que Milius, effectivement, c'est vrai, il se faisait prendre en photo avec des flingues. Alors, on sait qu'il s'est fait payer avec des flingues sur certains films, tout ça. Il n'était jamais à une ou deux déclarations de provocation. Mais en fait, au fond, il se revendique plus comme un anarchiste de droite, fasciné par les hommes droits. En fait, c'est un libertarien, quoi, quelque part. C'est un Eastwood mal poli. D'ailleurs, c'est lui qui aurait écrit en partie l'inspecteur Harry et qui a écrit Magnum Force. Bon, sur l'inspecteur Harry, il n'est pas crédité. D'ailleurs, c'est un peu... Il est reconnu parce qu'il a été à l'école et c'était leur, un peu leur idole. Il avait monté un petit groupe, on le découvre dans le livre de Chavdia, basé autour aussi de la philosophie du surf, parce que c'était un surfeur, il adorait ça. D'ailleurs, ça donnera un de ses plus beaux films, Graffiti Party, Big Wednesday, qui est un grand film. Hein. Peut-être son meilleur, enfin, je ne sais pas, en tout cas un de ses meilleurs. Et du coup, effectivement, ça a joué en sa défaveur. Parce qu'en fait, Milius est... Et en fait, il appartient à l'ancien temps, en fait. C'est quelqu'un du nouvel Hollywood qui vient du vieil Hollywood dans sa tête. D'ailleurs, Tarantino ne se trompe pas quand il fait Once Upon a Time in Hollywood. Il l'a dit plusieurs fois en interview. Le final de Once Upon a Time in Hollywood renvoie, en fait, à la version originelle écrite pour Juger hors la loi que John Huston a tournée et un peu dénaturée. Voilà, Milius voulait quelque chose de plus radical et différent qu'on retrouve dans le final de Once Upon a Time in Hollywood. Et surtout, et c'est là où je voulais en venir, cet adage de John Ford que Milius a repris, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs pour un autre film, mais c'est quand l'histoire, l'histoire est plus belle, non, quand la fiction est plus belle que l'histoire, on imprime la fiction. Quand la légende est plus belle que l'histoire, on imprime la légende. Et en fait... Évidemment, là, il prend quelques libertés hein, avec la vraie histoire, puisque c'est un homme qui est enlevé, c'est pas une femme avec ses deux enfants. Effectivement, Roosevelt, très bien interprété par Brian Keith, dont il détourne un peu l'anecdote du fameux teddy bear de l'ours de Roosevelt, parce qu'on de ce fameux ours que Roosevelt n'aurait pas tué lors d'une partie de chasse et qui est devenu l'emblème des États-Unis, voilà. Et d'ailleurs, il présente un peu Roosevelt parfois comme on a l'impression qu'il est un peu idiot et tout, mais en fait, il est très admiratif de Roosevelt. Hein. Il montre juste l'homme dans toutes ses facettes. Comme quand il montre le personnage de Sean Connery, le berbère, qui lui est une idole de son peuple, parce que il veut débarrasser en fait de ce sultan d'opérette trop jeune qui dirige alors le Maroc et qui est en train de se faire bouffer par les pays européens, les pays occidentaux, qui sont en train de racheter le Maroc, quoi, qui sont en train de priver le Maroc de ses ressources, de priver le peuple marocain du droit à disposer de lui-même et tout. Et lui, c'est une vraie légende, en fait, ce personnage qui a réellement existé. Et du coup, Milius, bah lui, il préfère la légende. Alors Milius, il va du coup construire un conte, parce que c'est un côté conte, ce film, hein, vu à travers les yeux d'un enfant, parce que le personnage, en fait... Peut-être le plus important du film, c'est le personnage de William, l'un des deux petits garçons enlevés, parce que bah, dès le début du film, d'ailleurs, on voit tout de suite, c'est à travers les yeux de William qu'on voit l'histoire, et c'est à travers ses yeux à lui qu'on va la vivre. Et Milius, qui est considéré par beaucoup, parce que dès qu'ils ont un problème, Spielberg, Coppola, tout le monde l'appelle, en fait, pour sauver leur scénario, c'est considéré comme un génie du scénario, en fait, hein, plus qu'un cinéaste important, il est surtout considéré comme un génie du scénario. Eh bien, il construit... une histoire que je trouve assez formidable, assez imparable. Effectivement, il y a ce romantisme, mais ce romantisme, comme tu le dis, une sorte de romantisme avec la relation, elle est plus, je pense, une relation de respect qu'une relation amoureuse. Hein, voilà. Hein. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce regard de Milius sur le personnage de Sean Connery, parce qu'il n'est pas exempt de défauts, ce personnage, Mais il le dit à plusieurs reprises, vous ne connaissez pas notre histoire, nos traditions, ne nous jugez pas. Parce qu'après tout, à l'époque, en Occident, on coupe des têtes aussi. Hein, voilà. La guillotine existe en France, par exemple. Donc il dit, ne nous jugez pas, c'est notre manière à nous de, voilà, d'appliquer le... Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il y a une anecdote qui est rapportée dans les bonus, là, c'est que Sean Connery, des années plus tard, lors d'un festival à Marrakech, je crois, s'est fait reprocher d'avoir participé à ce film sous prétexte que ça donnait une mauvaise image des Arabes. Et c'est, je trouve ça assez étonnant, parce que moi, je trouve au contraire que... Enfin, quand on regarde le film, on a tous envie, en fait, d'être plutôt le personnage incarné par Sean Connery, qui est d'ailleurs magnifié lors d'une scène de combat sur la plage qui est juste extraordinaire.
Dans le film, on ne peut pas dire qu'il y ait des bons et des méchants. Ça, c'est... Enfin, à part la scène sur la plage, là où il sauve la jeune femme tout seul contre des pillards, on se doute qu'ils vont les... On soupçonne quelque chose comme la traite des blanches, etc. Mais sinon, il n'y a pas de bons et de méchants dans le film. Ce sont des fortes personnalités qui ont affaire l'une à l'autre, qui veulent défendre leur vision de la vie ou de la société. Et moi, je vois plutôt effectivement la façon dont il dépend le Maroc, la civilisation arabe. Il met plutôt en avant le raffinement de la civilisation arabe, de la civilisation musulmane à travers ce personnage incarné par Sean Connery, qui est très charismatique, hein, la façon dont il le présente. La première fois qu'on le voit, il est assis de dos à une fontaine. Et puis... Quand Candice Bergen et ses enfants le découvrent, ils sont quelque part, ils sont apeurés, mais ils sont aussi subjugués quelque part par son charisme, par la présence qu'il impose, etc. Donc moi, je vois plutôt qu'il renvoie plutôt dos à dos, et pas forcément pour les critiquer l'un l'autre, pour en montrer toutes les facettes des deux personnages. On voit dos à dos aussi bien le Maroc que les États-Unis, avec ces deux personnages incarnés par Theodore Roosevelt et le personnage incarné par Sean Connery. Par contre, s'il y a quand même des méchants, c'est les Allemands. Les Allemands, ils s'en prennent quand même plein la tête. Hein. Et d'ailleurs, en revoyant le film, le final, il m'a frappé, parce qu'il m'a beaucoup fait penser au final de L'Ordre Sauvage. J'ai l'impression qu'il y avait des plans qui étaient des citations, notamment quand il décide d'aller délivrer Sean Connery. Il y a un plan large où on les voit avancer avec derrière une arche, comme dans L'Ordre Sauvage, avec une musique martiale derrière. Ça m'a fait beaucoup penser au final de L'Ordre Sauvage.
Ah bah c'est une citation vraiment claire et nette. Et voilà, alors après, c'est rigolo ce que tu dis, parce que du coup, ça m'a rappelé une autre scène. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce travelling avant sur Sean Connery mystérieux de dos quand Candice Bergen découvre quel est le vil gredin, hein, ce Raizouli qui est arrivé et puis qui a quand même fait tuer tous ses domestiques et tout ça. Bon. Et effectivement, il a un côté très monarque. Hein, voilà, il est très, très, très impressionnant. Et puis, juste après, on lui amène un cheval alezan. Et il est incapable de monter le cheval et il se casse la figure voilà, parce que le cheval rue. Et il y a tout le cinéma de Midus qui est là. C'est-à-dire, c'est faussement manichéen, hein, en fait. Et c'est très intéressant. Alors, et en plus, bon, effectivement, c'est pas un monde très sexué. C'est-à-dire que on se doute bien que c'est pas un féministe, hein, Milius. Hein, voilà. C'est-à-dire que le personnage de Candice Bergen, il a plus les attributs d'un personnage masculin, en fait, que les attributs d'un personnage féminin. C'est quand même avant tout un film d'homme, comme beaucoup des films de Milius, d'ailleurs, hein, qui sont souvent quand même des films d'hommes. Mais le film est... Pour moi, je trouve que c'est assez passionnant. C'est pas le Milius que je préfère, mais je trouve qu'en termes de mise en scène, de beauté plastique, je crois qu'il a pris le directeur de la photo qui avait fait les scènes qui se passent au début de l'Exorciste, là, quand ils sont dans des ruines, je crois que c'est en Égypte ou en Afghanistan, au tout début de l'Exorciste de Friedkin. C'est en Irak, c'est ça. Mais je ne sais plus où c'est tourné, en fait. Parce que là, c'est tourné en Espagne, Le Lion et le Vent. Hein. Et donc, bon, enfin, bref. Il y a vraiment... pour moi, c'est un... C'est vraiment un film voilà, à redécouvrir. Pour redécouvrir à quel point, en fait, Milius est un auteur majeur. D'ailleurs, Milius avait une vision particulière de l'auteur d'un film. Il ne considérait pas que l'auteur était le metteur en scène, lui. Il considérait que c'était celui qui mettait la patte la plus importante sur le film. Donc ça pouvait être le producteur, le scénariste, le réalisateur. Donc lui, parfois, il pouvait se voir comme auteur d'un film juste quand il en avait signé le scénario.
in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Autre film, autre époque, La maison aux sept pignons de Joe May, sorti en 1940, un film avec George Saunders et Vincent Price, un film qui se déroule en 1828, où la famille Pyncheon est ruinée, et l'un des héritiers, Clifford, donc Vincent Price, songe à vendre la superbe demeure familiale sur laquelle pèse une malédiction, puisqu'elle a été construite sur des terres volées à un pauvre homme qui a été ensuite exécuté et qui a du coup jeté une malédiction sur la famille par les ancêtres de la famille Pyncheon. Mais le cousin Jaffray, qui est très méchant, qui est joué par un acteur que je n'aime pas beaucoup, qui est George Saunders, qui est très très méchant, va se débrouiller pour faire accuser son propre frère, qui va être jeté en prison, pour être en prison à perpétuité, voilà. Et sa belle, Hepzibah Pyncheon, qui est jouée par Margaret Lindsay, va tomber dans une grave dépression. Enfin bon, voilà, il va se faire accuser en gros d'avoir tué son père. Ce qui n'est pas vrai, parce que le père en fait a un arrêt cardiaque et tombe sur le coin de son bureau. Et donc, comme il y a la trace d'un coup, on l'accuse d'avoir tué son père, ce qui est faux. Alors, bon, Joe May, quand il réalise ce film, alors Joe May, c'était un des collaborateurs de Fritz Lang. Il est parti en 1933, on sait pourquoi, il a quitté l'Allemagne. Et donc, il est venu terminer sa carrière à Hollywood. Et dans ses faits d'armes, il y a cette maison aux sept pignons qui vient peu de temps après Le Retour de l'Homme Invisible, qui est aussi qui est son meilleur film aux États-Unis. Alors, cette version de 1940, elle est adaptée donc d'un bouquin extraordinaire de Nathaniel Hawthorne, je ne sais pas si je le dis bien. Thomas aime bien se moquer de mes accents généralement. C'est pour ça que là, je ne vais pas brancher le micro. Vengeance. Et le livre est assez fantastique. Et pour l'adaptation, alors que ce film est censé s'inscrire dans la série des films, des classiques fantastiques de la Universal, le scénariste décide d'enlever l'aspect fantastique du film. D'ailleurs, il y a un très bon bonus sur le Blu-ray où Pascal Francex, l'érudit Pascal Francex, aborde ce sujet et fait un peu le point sur le bouquin, les différences qu'on peut noter dans l'adaptation. Alors, qu'est-ce qui reste de ce film aujourd'hui ? Eh bien déjà, il reste un film très efficace, un film assez passionnant, et surtout la révélation d'un acteur, Vincent Price, qui n'est pas alors un acteur très très connu, va rencontrer en fait un des descendants de celui qui lui a jeté le sort, qui a jeté un sort sur sa famille, et ils vont se mettre d'accord pour jouer un vilain tour à George Saunders. George Saunders, qui est vraiment très méchant parce qu'en plus il est abolitionniste. Et tout ça n'est absolument pas un hasard, puisque Lester Cole, qui signe le scénario, et donc le transforme
transforme grandement le bouquin de Hawthorne, est un communiste notoire, en fait. Hein. Donc, il n'y avait pas d'abolitionniste et tout ça. Voilà. Et lui, il a amené tout ça, il a enlevé l'aspect fantastique. Et ça donne un film, ma foi, assez réussi, qui a des accents un peu de mélo, en particulier à travers le personnage de Hepzibah Pinchéon, qui est joué donc, par Margaret Lindsay. Et... parce qu'elle n'arrive pas à faire vivre la maison est maudite, enfin voilà, donc elle est obligée de la transformer en boutique, elle se délabre avec le temps. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est dans la mise en scène de Jomé, c'est tout ce qu'il a gardé de sa période expressionniste, hein, c'est-à-dire cette façon de jouer avec les éclairages, cette façon de jouer avec les décors, le clair-obscur et tout ça, voilà, ça donne un film avec un très beau noir et blanc. Et George Saunders, que je n'aime pas comme acteur, que je trouve un peu falot, là, il est très bien parce qu'il est méchant. Donc, il est veut les méchants. Donc, il est parfait. Et la vengeance s'abat sur lui. Et il l'a tellement mérité pour, que moi, je ne vais pas m'en plaindre. Et je trouve Vincent Price, je trouve qu'il est fabuleux dans son rôle. Je le trouve extraordinaire. Pour les fans de Vincent Price, pour les fans de bons films, ceux qui aiment aussi le cinéma expressionniste, jetez-vous sur cette maison aux sept pignons de Jomé, qui, même si elle n'a pas gardé l'aspect fantastique du bouquin, le caractère fantastique du livre, nous donne à en voir une interprétation tout autre, mais qui n'est pas moins intéressante. Nous changeons complètement d'univers maintenant avec toi, Thomas, pour aborder un film tardif de Billy Wilder, puisqu'il date de 1974, qui est lui aussi sorti chez Rimini, hein, qui s'appelle Spécial Première, avec évidemment Jack Lemmon, son acteur fétiche, avec Walter Matthau et avec une toute jeune Suzanne Sarandon, un film qui se passe dans l'univers du journalisme.
Un film qui se passe dans l'univers du journalisme, mais dans l'enceinte d'une prison, d'une maison d'arrêt, où un homme est accusé d'avoir tué un policier. Il était reconnu coupable et puis il va être exécuté le lendemain dès l'aube. Et c'est sans compter Jack Lemmon et puis les différents journalistes qui sont là, qui sont dans la salle de presse, à toujours guetter le scoop, l'information exclusive pour pouvoir vendre du papier. Spécial Première s'inspire d'une pièce de Ben Hecht et Charles MacArthur qui a été mis en scène en 1928. Et la pièce avait déjà été adaptée par Howard Hawks avec La Dame du Vendredi, It's Girl Friday. Et donc là, c'est une nouvelle adaptation au cinéma avec, comme tu l'as dit, Jack Lemmon, Walter Matthau. Il y a même Charles Durning aussi dans le rôle d'un des journalistes. Donc c'est un film qui est quand même assez caustique sur la presse, qui démontre les journalistes comme des gens à l'affût du moindre scoop, qui n'hésitent pas même à déformer les informations, voire à inventer des informations pour pouvoir faire du papier à sensation, à scandale, et qui n'en ont rien à faire de la vie du personnage qui est condamné à mort, rien à faire des gens autour dont ils inventent encore des histoires. Par exemple, il y a une histoire avec une prostituée qui est l'amie du condamné à mort. Il y a d'ailleurs la séquence avec la prostituée, est l'une des séquences les plus poignantes du film. Là, on commence à être dans un autre film à ce moment-là. Et c'est une séquence vraiment poignante que je trouve vraiment très belle à ce moment-là. Et c'est un film qui est donc caustique, qui est plutôt drôle, qui est très dynamique. Alors c'est d'après une pièce de théâtre. Donc on est essentiellement dans une pièce, même s'il aménage quelques aérations avec quelques cascades en voiture à un moment où il y a une poursuite quand ils poursuivent le condamné à mort qui se serait échappé de la prison. Mais au niveau des dialogues, la façon dont il monte les dialogues, dont il filme, c'est du scope. L'utilisation du cinémascope donne une autre vision de cet espace restreint qu'est cette salle de presse au milieu de la prison. Et pour moi, c'est une découverte. Hein, je ne l'avais jamais vu. Je ne connais pas très bien Billy Wilder à part 400 films. Mais c'est une très bonne comédie, assez ironique, assez caustique et qui, encore aujourd'hui, peut résonner par rapport à la presse qu'on peut trouver encore aujourd'hui, qui veut toujours, maintenant on dit faire du clic ou faire du buzz, et qui résonne pas mal par rapport à ça. C'est aussi un film, on peut y voir aussi une sacrée critique du maccartisme quelque part, parce que le personnage accusé est un militant communiste, ou accusé comme tel, qui veut défendre le droit des travailleurs, etc. etc. Et donc forcément il dérange. Et c'est aussi un film qui parle aussi du travail. Comment le travail peut interférer sur la vie intime, avec le personnage de Jack Lemmon qui veut quitter le journal pour se marier et puis vivre tranquille avec une femme qu'il aime, etc. Et en fait, le travail le rattrape sans arrêt et il préfère à la rigueur son travail à la femme qu'il est censé aimer.
Et oui, donc toujours un peu un côté désabusé, un petit côté sinistre en fait chez notre ami Billy Wilder. Et comme tu le dis, jamais manichéen, c'est sans doute ça qui fait la richesse de son cinéma. On se rappelle dans One, Two, Three comment il renvoyait à dos les idéologies communistes et capitalistes, mais de manière très intelligente, très fine, très drôle. On en avait déjà parlé dans cette émission. Moi, je vais rester dans le domaine de la presse pour aborder rapidement un dernier petit film. Je voulais juste vous signaler aussi que, parce que bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir que les conditions dans lesquelles nous enregistrons actuellement sont un peu compliquées, malheureusement, avec ce qu'on vit dans le pays et dans d'autres pays en Europe et à travers le monde. Et donc, on a un peu de retard dans les chroniques qu'on doit faire, mais on en parlera dans une prochaine émission, parce que je voulais vous signaler qu'il y a deux Billy Wilder, et pas des moindres, qui viennent de sortir là, qui viennent juste d'arriver et qu'on n'a pas encore eu le temps de revoir pour vous les chroniquer. C'est Ariane qui sort en Ultra Collector chez Carlotta, et Uniforme et Jupon Court, qui est le premier film de Billy Wilder pour lequel il avait un amour particulier, qui sort chez Rimini. Alors moi, je vais rester dans l'univers de The Front Page, spécial première donc, avec un film de 94 qui s'appelle Le Journal, qui est un film de Ron Howard, sorti chez Elephant Film, et qui, assez étonnamment, Ron Howard, qui est un cinéaste quand même assez plat, qui moi me passionne pas vraiment, quoi, pas du tout même, voilà, est un film qui tient plutôt bien la route. Ça fait partie des bons Ron Howard, il y en a quelques-uns, hein. Ça fait partie des bons Ron Howard, avec Michael Keaton, Robert Duvall, Glenn Close, Marisa Tomei, l'éternellement belle Marisa Tomei, Randy Quaid et Jason Robards. Et l'histoire est simple. Michael Keaton, il est rédacteur au journal le New York Sun, donc à une ligne éditoriale un peu racoleuse, un peu la même que ce qu'on voit dans Spécial Première, et que lui, il apprécie peu. Et il doit jongler entre sa femme Martha, qui est enceinte et qui est donc Marisa Tomei, et qui est une ancienne journaliste. Et il a des problèmes avec ses collègues et sa psychopathe de rédactrice. Donc évidemment, vous l'avez deviné, entre autres Glenn Close. Hein, voilà. Et c'est l'histoire comme ça de ce journaliste qui va avoir une offre du New York Sentinel, un autre journal un peu mieux coté, en tout cas qui correspond un peu plus à ce que lui, il a envie de faire. Alors, le film est certainement intéressant parce que le scénario est de David Koepp et que du coup, le scénario, à mon avis, y est pour beaucoup. Et on est vraiment, j'ai voulu le mettre en parallèle avec Spécial Première parce qu'on est vraiment sur une intrigue un peu similaire. C'est-à-dire que le personnage de Michael Keaton, il ressemble un peu à celui de Jack Lemmon dans sa relation avec sa femme, tout ça. Et puis, il y a l'intrigue policière avec deux jeunes accusés d'un meurtre de gros bonnet que l'enquête journalistique peut faire innocenter, quoi. Voilà. Et donc, alors le problème, c'est que, bon, l'aspect intrigue policier est mis de côté, c'est un peu déséquilibré dans l'écriture, et on s'intéresse davantage aux problèmes personnels de Michael Keaton qui lui, évidemment, lui toujours au top. Robert Duvall fait un rédacteur en chef cynique, qui est vraiment très bon. Glenn Close, donc je l'ai dit, en directrice du journal, mais c'est une directrice financière en fait, hein, voilà, qui leur met la misère. Et puis ça donne un film en fait qui est assez étonnant parce que même dans la mise en scène, il utilise beaucoup la technique qui est dans Les Hommes du Président, qu'on appelle le walk and talk, c'est-à-dire on voit des personnages se déplacer en parlant et la caméra les suit. Et Ron Howard pratique beaucoup ça dans le film, ça donne un certain dynamisme au film et ça donne bien en fait le sentiment d'être à l'intérieur d'une rédaction d'un journal. Voilà. Alors c'est pas le film du siècle, mais ça reste pour moi en tout cas un des meilleurs Ron Howard, et c'est à voir, c'est sorti chez Elephant Film.
Yourself, you belong to me. Eat an apple every day.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.